Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour Bernard.
Bonjour Dominique.
Bonjour chers amis auditeurs et bienvenue avec nous pour cette 7e leçon d'école du sabbat. 7e leçon pour la semaine du 8 au 14 août 2009. Bernard, qu'est-ce que tu nous proposes comme titre ?
Eh bien, c'est le titre suivant, « Vivre comme des enfants de Dieu ».
Le verset à mémoriser se trouve dans, ce n'est pas une surprise, première épître de Jean, chapitre 3, verset 1.
« Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. » Et quelques questions clés maintenant pour cette leçon.
Que signifie être enfant de Dieu ? En quoi devrions-nous désirer être semblables à Dieu ? Comment Jean définit-il le péché ? Qu'a fait Jésus concernant le péché lors de sa première venue ? Comment comprendre les paroles de Jean lorsqu'il nous dit que « quiconque est né de Dieu ne peut pas pécher ».
Un nouveau converti vint trouver le prédicateur et lui dit « J'ai beau prier, j'ai beau faire tous les efforts possibles, je n'arrive pas à être fidèle au Seigneur. Je crois bien que je suis en train de perdre le salut. » Le prédicateur répondit, « Vous voyez, ce chien, c'est le mien. Il est très bien dressé. Il ne fait jamais de saleté, il est obéissant. Un vrai régal. Là-bas dans la cuisine se trouve un bébé. C'est mon fils, il fait des saletés, il jette sa nourriture par terre, il sarie ses vêtements. Il est impossible. »
Mais qui sera mon héritier ? Certainement pas mon chien. C'est mon fils qui héritera de mes biens. Et alors, vous êtes l'héritier de Jésus-Christ parce que c'est pour vous qu'il est mort. Nous sommes les enfants de Dieu et les héritiers de son royaume, non à cause de notre perfection, mais par sa grâce. Cette semaine donc, nous nous arrêterons davantage sur les implications de cette promesse.
Eh bien, pour introduire cette première leçon, cette leçon de cette semaine, c'est le dimanche 9 août 2009 et nous aurons pour titre cette journée-là
« Enfants de Dieu ».
Nous allons lire une magnifique promesse qui se trouve dans le verset
1 Jean, chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. »
1 Jean 3, verset 1 parle d'une naissance spirituelle. Jean 1, verset 12 met l'accent sur la foi en Christ grâce à laquelle nous devenons enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1 souligne le fait que les croyants sont déjà des enfants de Dieu grâce à l'initiative prise par ce dernier. La nouvelle naissance est son œuvre et non la nôtre, car nous sommes incapables par nous-mêmes de naître de nouveau ou d'être adoptés par Dieu comme ses enfants.
En outre, nous n'avons pas à nous soucier de notre statut d'enfant de Dieu tant que nous maintenons notre relation avec lui. Cette relation est comparable à celle qui lie un père avec son enfant. Elle est très étroite. Un père idéal prend soin de son enfant, l'aime et donnerait sa vie pour lui.
Arrêtons-nous pour réfléchir sur les implications de cette promesse. Nous sommes les enfants de Dieu. À ce jour, on a compté plus de 400 milliards de galaxies visibles dans l'univers, chacune d'elles contenant des milliards d'étoiles. Et qui sait combien il y a de planètes dans chacune de ces galaxies et combien sont habitées par des êtres intelligents ? Étant donné la taille de l'univers par rapport à la Terre et à plus forte raison par rapport à chacun d'entre nous, comment ne pas être étonné par le fait que Dieu, qui a créé tout cela, nous aime et a fait de nous ses enfants?
Cela devrait nous donner une idée de la valeur extraordinaire que revêt notre vie à ses yeux. Quelle espérance, quelle assurance, quelle confiance en l'avenir nous devrions avoir, malgré notre situation actuelle et les difficultés que nous pouvons rencontrer. Dieu, le Créateur de tout ce qui est, nous aime, veille sur nous et nous appelle ses enfants. Une traduction anglaise traduit 1 Jean 3:1 avec une certaine liberté, tout en captant bien le sens de ce verset, quand il nous dit « Le Père répand avec profusion son amour sur nous ».
Réfléchissons donc à ce qu'implique l'idée suivante. Non seulement Dieu existe, mais il nous aime. Il veille sur nous. Il est même mort pour nous. Cette réalité ne devrait-elle pas avoir un retentissement sur notre vie ?
Et voici maintenant la journée du lundi 10 août avec comme titre, Bernard.
Conséquences et responsabilités.
Je t'invite à lire le verset, donc les deux versets 2 et 3 dans 1er épître de Jean, chapitre 3.
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur.
Le verset 1 que nous avons lu hier est une introduction aux réflexions développées dans le passage de cette semaine, où Jean évoque les implications de cette relation père-enfant, y compris les responsabilités qui en découlent. Parce qu'ils sont en communion avec Dieu, les croyants mènent une vie pure, ils ne sont pas sous la domination du péché.
Mais avant de commencer, l'auteur nous transporte vers le moment où nous verrons Dieu et où nous serons semblables à lui. Parce que nous savons que nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu, nous avons la certitude que l'avenir sera encore plus fabuleux, même si nous ne le percevons pas totalement actuellement. À l'idée de voir le Seigneur et de lui ressembler, nous devrions être remplis de joie et de confiance et éprouver une crainte mêlée de respect et d'émerveillement.
Nous sommes invités à réfléchir sur la différence entre ce que désiraient Satan et Ève, devenir semblables au Très-Haut, tel qu'il nous l'est décrit dans Genèse 3:5, et ce que nous promet 1 Jean 3:2, c'est-à-dire ressembler au Seigneur.
Satan voulait posséder la même puissance que Dieu, et il aspirait sans doute à être adoré par toute la création. Mais il n'avait pas envie, semble-t-il, de ressembler à Dieu par le caractère, et son désir de puissance, loin de lui permettre d'approfondir sa relation avec Dieu, l'a au contraire rompue et détruite.
Même si les chrétiens savent qu'ils ressembleront à Dieu, ils ne désirent pas prendre sa place. Ils veulent seulement lui ressembler en aimant les autres hommes, en se mettant de façon désintéressée à leur service, en ayant des pensées pures et en agissant avec justice. Il respecte la différence fondamentale qui existe entre le Créateur et ses créatures. Il ne souhaite pas l'effacer.
Ce qui les intéresse, c'est l'amour et non la puissance. Jésus nous l'a montré, être semblable à Dieu, c'est se donner à autrui, totalement et de façon désintéressée. Il est venu pour nous révéler qui était le Père. « Il y a si longtemps, dit-il, que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ?
Réfléchissons au contraste incroyable qui existe entre le caractère de Jésus et celui de Satan. Alors qu'il était une créature, Satan a recherché une position plus élevée pour des raisons purement personnelles et égoïstes. Tandis que Jésus, le Créateur, s'est vidé de lui-même pour le bien des hommes, tel qu'il nous l'est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 7.
Nous poursuivons donc cette étude avec la journée du mardi 11 août 2009 et qui a pour titre
« Une définition du péché ».
Nous allons lire un premier texte qui se trouve dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 4.
« Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. Et le péché, c'est la violation de la loi. »
Les fausses doctrines dénoncées par Jean dans ses lettres insistaient sans doute sur la bénédiction que procure le salut dès à présent. Mais elles omettaient l'importance qu'il y a à vivre dans la pureté. Les faux docteurs ne se souciaient peut-être pas du problème du péché et de ses conséquences.
C'est pourquoi Jean tient à souligner que notre avenir dépend de la façon dont nous vivons dès à présent. Cela n'a rien à voir avec la justice par les œuvres. Nous sommes sauvés par la seule grâce, mais notre vie doit refléter le fait que nous sommes sauvés. Jean, après avoir invité les chrétiens à se purifier, leur explique ensuite comment le faire.
Eh bien, nous lisons quelques textes maintenant pour répondre à cette question. Et tout d'abord, dans le livre des Psaumes, chapitre 36, les versets 2 à 3 tout d'abord.
« La parole de révolte du méchant est au fond de mon cœur. Il ne voit pas pourquoi il craindrait Dieu. » Car il se flatte à ses propres yeux, pour consommer sa faute, pour assouvir sa haine. Et nous continuons avec les versets 4 et 5.
Les paroles de sa bouche sont fraude et tromperie. Il renonce au discernement, au bien. Il médite la fraude sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas la bonne. Il ne rejette pas le mal. Nous continuons avec le livre du prophète Jérémie, chapitre 3, le verset 13.
Reconnais seulement ta faute. Car c'est contre l'Éternel, ton Dieu, que tu t'es révolté. Tu as eu une conduite dissolue avec les étrangers, sous tout arbre verdoyant, et vous n'avez pas écouté ma voix. Continuons avec Romains, chapitre 6, versets 17 et 18.
Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Et encore un texte dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 4.
Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi.
Pour décrire ce qu'est le péché, les Écritures parlent de but manqué, de mensonge, de violation délibérée de l'idéal de vérité divin, de rébellion, de cruauté, de désobéissance, de transgression, d'offense, de non-respect des lois et d'injustice.
Jean définit le péché comme le mal ou la violation de la loi. Dans un autre passage, il rappelle l'histoire de Caïn, dont le crime est l'exemple même de la violation de la loi. Puis il évoque les commandements et la nécessité de les observer. Outre ces implications légales, l'expression « violation de la loi » nous fait penser à cet homme impie, tel qu'il est mentionné dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. L'Antichrist par excellence, dont les agissements atteindront leur apogée juste avant le retour de Jésus. C'est ce viol de la loi que commettent les antichrists de 1 Jean parce qu'ils se rebellent de façon flagrante contre Dieu et se rallient à Satan.
Dans 1 Jean chapitre 3 et verset 4, il engage indirectement les membres d'Église à renoncer à de tels comportements ainsi qu'à tout péché. Voici quelques lignes à méditer pour terminer cette journée. Quel est notre péché mignon? En d'autres termes, à quel péché cédons-nous constamment? Comment nous justifier à nos propres yeux? Ne nous semble-t-il pas de moins en moins grave au fil des années? Prenons conscience que si nous ne faisons pas appel à la puissance de Dieu pour le vaincre, tôt ou tard, ce péché nous détruira.
Voici la journée du mercredi 12 août 2009, avec pour thème
la venue de Jésus.
Dans les versets que nous allons lire, retenons ce que Jean nous dit concernant Jésus et ce qui s'est passé lors de sa première venue. Prenons tout d'abord 1er épître de Jean, chapitre 1, versets 1 et 2.
Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous continuons avec 1 Jean chapitre 3, les versets 5 à 8. 5 plus 8, pardon.
Verset 5. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Et le verset 8 nous dit « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. »
Lors de sa première apparition, Jésus est venu dans la chair d'un simple homme pour apporter une solution au problème du péché et détruire les œuvres du diable. En conséquence, les croyants n'ont rien à voir avec le péché ou l'initiateur du péché, qui est le diable. Faire cause commune avec le péché revient à suivre Satan et à rejeter Jésus.
Pour Jean, c'est très clair, Jésus enlève les péchés. Lisons maintenant d'autres textes pour comprendre comment Jésus a ôté les péchés du monde. Et prenons le livre d'Hébreux, chapitre 9, les versets 26b à 28.
Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Nous avons encore un texte, un ou deux textes à vous proposer. 1 Jean chapitre 2 et le verset 2.
Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et prenons encore Apocalypse chapitre 1 versets 5 et 6.
À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen.
Jean n'explique pas ouvertement comment Jésus a enlevé les péchés. Toutefois, le contexte de 1 Jean et son évangile montrent clairement que c'est en mourant sur la croix. Quant au texte de l'Épître aux Hébreux, il affirme que Jésus a ôté le péché en s'offrant en sacrifice. Quant à l'Apocalypse, il nous enseigne qu'il nous a libérés du péché par son sang.
Si la première partie de 1 Jean 3:5 fait indirectement allusion à la croix, la seconde partie insiste sur l'absence totale de péché en Jésus, condition nécessaire pour que sa mort sur la croix nous sauve.
Les antichrists de 1 Jean n'avaient sans doute pas pleinement compris la véritable valeur de la croix et de la mort de Jésus pour nous. C'était tout à fait insensé de leur part, car la mort du Christ en notre faveur, le châtiment qu'il a subi pour tous nos péchés, constitue le fondement du plan du salut.
C'était le seul moyen pour que l'humanité puisse être sauvée et qu'elle obtienne la promesse de la vie éternelle. Passer à côté de cette vérité revient à manquer le but de l'Évangile tout entier.
Et maintenant, pour méditer, posons-nous les questions suivantes. Dans notre lutte contre le péché, contre la culpabilité, la peur et le manque d'assurance, comment la croix relève-t-elle ces défis? Comment mieux nous approprier l'espérance et les promesses qui sont en Jésus en ce qui concerne non seulement le pardon, mais également la force de vaincre?
Thank you. continuons donc cette étude avec la journée du jeudi 13 août 2009 et nous avons pour titre aujourd'hui
« Sans péché ».
Et là, un premier texte nous est proposé dans 1 Jean, chapitre 3, versets 6 et 9.
« Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. »
Les déclarations contenues dans ce texte sont puissantes et déconcertantes, car elles affirment que lorsqu'on vit en Christ et qu'on est né de Dieu, on ne pêche pas.
Elles ont quelque chose d'absolu. Les chrétiens se sont débattus avec ces affirmations et ont essayé de les expliquer. Quel chrétien authentique ne s'est pas trouvé confronté avec la réalité du péché dans sa vie ?
En tout cas, ce que nous pouvons affirmer, sans nous tromper, c'est que l'apôtre Jean ne se contredit pas. Dans le chapitre 1er, il déclare que les croyants qui prétendent être sans péché s'illusionnent. Dans le chapitre 2, il insiste sur l'objectif du chrétien qui est de ne pas pécher, mais il ajoute que si cela nous arrive, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Le passage d'aujourd'hui doit être compris à la lumière de ce qui a été dit précédemment à propos du péché. Les chrétiens renoncent au péché, mais s'ils pêchent, ils confessent leur faute et acceptent le pardon divin.
Les commentateurs ont proposé différentes explications pour tenter de résoudre les difficultés posées par ces versets. Très brièvement, voici deux. Dans 1 Jean, chapitre 3, les versets 6, 8 et 9, Jean présente un idéal qu'on retrouve dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. La différence entre les deux versets vient de ce que la première épître de Jean, chapitre 3, n'emploie aucune nuance. Sans doute parce que Jean veut que son auditoire, et ses lecteurs soient au clair en ce qui concerne le péché. Celui-ci ne peut être pris à la légère. Les disciples de Jésus ne peuvent jouer avec le péché.
Les verbes « pécher » et « faire le péché » ou « commettre le péché » sont au présent, temps qui en grec désigne le plus souvent une action continue. Cela signifierait donc que les disciples du Christ ne peuvent continuellement pécher. Il peut leur arriver de chuter ici ou là, mais ils ont renoncé au péché et ne mènent pas une vie de péché. Le péché ne les domine pas. La Bible du Semeur, par exemple, se rallie à ce point de vue en traduisant ces verbes par « continuer à pécher ».
Quelle que soit l'interprétation, le chapitre 3 doit être compris en relation avec les chapitres 1 et 2. Même si le péché est une réalité, les chrétiens n'ont pas d'autre choix que de s'en détourner, quel qu'en soit le prix. Et pour méditer, posons-nous la question suivante. Oui, nous sommes pécheurs, personne n'en doute. Mais la question est, combien de sang, de sueur et de larmes avons-nous versé dans le combat contre le péché au cours de notre vie ?
Oui, nous réfléchissons à ces questions, bien sûr. Et nous arrivons maintenant à la journée du vendredi 14 août 2009. Et pour aller plus loin encore, quelques citations de l'ouvrage d'Ellen White, « La tragédie des siècles ». Tout d'abord, « Que nul ne s'abuse par la pensée que la sanctification est compatible avec la violation volontaire des ordres de Dieu. Pécher de propos délibérés, c'est réduire au silence la voix de l'Esprit et se séparer de Dieu. » Le péché est la transgression de la loi. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu.
L'apôtre Jean, qui dans ses épîtres insiste beaucoup sur l'amour, n'hésite pas cependant à dévoiler sans merci ceux qui se prétendent saints, bien qu'ils transgressent la loi de Dieu. Celui qui se dit sans péché montre par là même qu'il est bien éloigné de la perfection.
Et en terminant, voici quelques lignes à méditer maintenant. que signifie concrètement ressembler à Dieu ? Certaines personnes sont effrayées à l'idée que nous sommes sauvés uniquement grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Elles disent que si le salut dépend de la justice du Christ et non de la nôtre, qu'est-ce qui va nous empêcher de continuer à pécher ? Que leur répondre ?
Quelqu'un, un jour, a expliqué sa propre vision de la croix en disant « Je n'utilise pas la croix comme une excuse ou comme une couverture pour mes péchés. La croix m'empêche d'abandonner totalement Dieu lorsqu'il m'arrive de pécher. »
Ensuite, il est pratiquement impossible de ne pas se laisser influencer par la société et la culture dans lesquelles on vit. Quel péché considère-t-on comme grave dans la société où nous vivons, alors que, dans d'autres cultures, on les considère comme moins graves ou pas graves du tout ? Jusqu'à quel point pouvons-nous accepter que la société influence notre manière de comprendre le péché ? Eh bien, après ces réflexions, nous terminons cette semaine d'études et, comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous...
À une prochaine fois, très bientôt.
À bientôt, chers amis.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.